Avec l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir, vous êtes tout seul là, comme un grand.
Mais vous, la semaine prochaine, c'est un autre qui sera tout seul. Olivier reviendra, vous le retrouverez avec plaisir. Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir Alain.
Le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, a provoqué un véritable tollé dans les colonnes du Parisien, en affirmant sa volonté de lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Et jusqu'à présent, on était dans la culture de l'évitement. C'est ce que dit Stanislas Guérini. En fait, il veut répondre, ce qu'il appelle, lui, à l'insuffisance professionnelle. Il veut agir dans le déroulement des carrières. Alors, il a donné des éléments de précision ce matin.
La fonction publique, ça n'est pas une entreprise privée. C'est un statut de la fonction publique. Je pense qu'il faut d'ailleurs préserver. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien bouger? Est-ce que ça veut dire que le statut, ça doit être le statu quo? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut bouger les lignes. Le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946, quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Moi, j'entends toutes les belles âmes qui, au fond, s'offusquent qu'on puisse simplement dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, je pense que c'est toujours dans l'intérêt des agents publics de pouvoir dire les choses. Il faut être très décalé pour considérer que quand vous avez un collectif de travail de 100 personnes, qu'il y a une personne qui ne fait pas son travail et que ça n'a pas de conséquences, eh bien que ce n'est pas démotivant pour les 99 autres.
Bon, alors, il veut passer au licenciement, finir avec l'emploi à vie, mais est-ce que c'est un ministre qui accable ses agents, Duhamel ?
Écoutez, en l'entendant, j'ai eu deux sentiments complètement contradictoires. Le premier, c'est que sur la méthode, c'est lamentable. Si on veut pousser une réforme de la fonction publique, il ne faut pas commencer par parler du licenciement comme si c'était la mesure essentielle, alors qu'on sait très bien que de toute façon, ça ne sera que marginal, d'autant plus qu'il n'est pas question de licenciement collectif. Donc, ça n'a pas de sens. Et de même, donner le document de travail au syndicat au dernier moment, parler d'abord dans un journal très estimable par ailleurs, le Parisien, mais dans un journal avant même de parler avec les représentants des syndicats, c'est une méthode d'une maladresse telle que je me suis vraiment posé sincèrement la question de savoir s'il n'y avait pas un peu de provocation, si ça n'était pas parallèle à ce qui est fait, à ce qui est envisagé à propos de l'indemnisation du chômage pour les travailleurs âgés, s'il ne s'agissait pas de s'adresser indirectement aux marchés financiers pour les apaiser. Bon, maintenant, l'autre sentiment qui est complètement contradictoire, c'est est-ce que c'est souhaitable qu'il y ait une réforme de la fonction publique ? Est-ce qu'il faut plus de souplesse ? Est-ce que c'est mieux si, par exemple, on peut passer, beaucoup plus facilement que ça n'est le cas aujourd'hui, de la fonction publique étatique, à la fonction aux collectivités locales ou à la fonction hospitalière? Est-ce que c'est mieux qu'on tienne compte du mérite dans les notes? Théoriquement, on en tient compte. Par exemple, les professeurs sont jugés par leurs proviseurs, leurs directeurs, etc. Mais c'est fait de façon qui ne regarde pas les problèmes en face. On évite de dire celui-là est bon et celui-là est mauvais. Bon, est-ce que ça, c'est bien? Ben non. Alors, autrement dit, il y a une réforme qui, à mes yeux, est utile, qui est même nécessaire, en plus donner plus de souplesse à notre énorme machine, etc. Peut-être plus de contrats et moins d'emplois vides. Enfin, il y a plein de choses à changer. Mais pour les changer, il ne faut pas commencer par bloquer tout le monde et se mettre tous les syndicats à dos, franchement.
Alors, Roselyne, est-ce qu'il faut finir avec l'emploi vide? Alors, il y a la méthode et puis il y a le fond.
Et oui, mais c'est les deux.
Non, mais vous avez raison. Si on veut arriver au fond, il faut que la méthode soit bonne.
Et je crois que réfléchir sur ce que doit être la fonction publique, c'est absolument indispensable. Parce que d'abord, il y a un problème, je dirais, quantitatif. Il y a eu une inflation du nombre de fonctionnaires considérable. En 25 ans, on a 1 million de fonctionnaires en plus.
Collectivité la population, territoriale.
Alors, j'y viens. La population a augmenté de 10% dans ces 25 ans. Donc, que la fonction publique d'État augmente de 6%, c'est plutôt raisonnable. Que la fonction publique hospitalière augmente de 36%, alors qu'il y a un vieillissement de la population, alors qu'il y a des besoins en santé. Bon, il y a des choses à moduler, mais que la fonction publique territoriale augmente de 45%, c'est-à-dire les collectivités locales, là, il y a un dérapage, et finalement, le président de la République a reçu les présidents des collectivités territoriales, ils veulent rien bouger. tout dérape, mais ils ne veulent rien bouger. Donc, il y a certainement des choses à faire. On est titulaire de son grade, mais on n'est pas propriétaire de son emploi, et on peut réfléchir à un certain nombre de choses. Moi, je pense que il faut pas tout mettre dans le même sac, en particulier dans la fonction publique d'État. Pour moi, il y a des emplois qui doivent bénéficier de l'emploi à vie, de la protection. Ce sont les grands emplois régaliens, les militaires, les juges, ça c'est absolument les policiers, c'est absolument
indispensable. L'éducation nationale.
C'est déjà plus discutable. Il y a des fonctions, par exemple, est-ce qu'un médecin hospitalier a besoin d'être fonctionnaire pour bien soigner ? En Allemagne, dans les hôpitaux publics, les médecins et les personnels soignants ne sont pas fonctionnaires. Est-ce que la santé est moins bonne en Allemagne pour autant ? Évidemment non, la santé, on vante même le système de santé allemand. Et ils ont fait face à la crise du Covid d'aussi bonne façon qu'en France. Pas meilleure, mais d'aussi bonne façon. Donc, je pense qu'il faut effectivement réfléchir, parce que le but, c'est pas de savoir si on protège telle catégorie, c'est le service qu'on rend aux Français. Parce qu'à un moment, il faut se poser, c'est la question fondamentale. De quoi avons-nous besoin dans les services publics ?
Alors, la question du mérite est quand même aussi au centre de la discussion. C'est implicite, mais c'est au centre. C'est quand même une des grandes différences entre le secteur privé et le secteur public. Dans le secteur privé, la question du mérite, alors on peut dire qu'elle est jugée quelquefois de façon subjective, voire injuste, mais enfin, c'est un élément absolument essentiel. Dans le secteur public, la question du mérite, elle est beaucoup plus marginale. Mmh. Alors, bien sûr, quand quelqu'un est très efficace, etc., il a des chances de passer des échelons plus rapidement, il peut être poussé vers tel ou tel poste, mais globalement, au nom de l'égalité et du statut, on considère que de prendre en considération de façon systématique le mérite au sein d'une collectivité, c'est injuste. Ben non, c'est pas injuste. C'est normal que celui qui se donne plus de mal, que celui qui est plus efficace, que celui qui est plus entreprenant, celui qui a plus d'idées...
Ça existe déjà, moi, en tant que ministre, j'ai noté des fonctionnaires et ça jouait sur la part variable de la rémunération.
Ça existe.
On fait comme si ça n'existait pas.
Ça existe déjà à ceci près que les syndicats sont vent debout contre tout ce qui valorise le mérite par rapport à ce qui valorise l'égalité. Oui, mais vous allez quand même pas me dire le contraire.
Non, mais on fait comme si il y avait pas de la possibilité de licencier un fonctionnaire. Ça existe,
oui,
dans des conditions, mais on fait comme si ça n'existait pas.
Oui, enfin,
c'est quelqu'un qui est totalement insuffisant dans son travail.
C'est totalement marginal.
Oui, mais enfin,
l'abandon de poste, le refus de 3 postes après une disponibilité et l'insuffisance professionnelle. Oui. Mais c'est là qu'il faut arriver à caractériser cette insuffisance professionnelle.
Et pour la fonction d'État, c'est l'année dernière, je crois, 13 cas sur 2,5 millions.
Ouais. Mais le licenciement économique n'existe pas.
Il n'y aurait pas d'évaluation des fonctionnaires. Bien sûr que les fonctionnaires sont évalués.
Mais bien sûr qu'ils sont évalués, bien sûr qu'ils sont évalués très souvent avec précaution, au nom de la solidarité, parce que c'est comme ça. Et par exemple, dans une collectivité territoriale.
Ah oui, j'ai fait partie d'une commission technique paritaire dans une collectivité territoriale. Vrai qu'on bouge.
Pourquoi est-ce qu'on bouge à la marge ?
Et moi, j'ai des souvenirs.
Parce que c'est une commission paritaire dans laquelle les représentants des salariés sont présents.
Voilà. Donc pas de vague, on veut pas d'histoire.
Oui, si vous voulez.
Et puis si c'est en plus une petite collectivité territoriale, on se connaît.
Mais c'est une question de ressources humaines, il y a aussi un certain clientélisme.
Est-ce que c'est simplement une... Parce qu'on se souvient de cette fameuse phrase « dégraisser le mammouth ». On parlait de l'éducation nationale.
Ah oui, de Claude Allègre.
Qui n'est pas très à droite non plus.
Qui a produit son effet, elle aussi.
Oui, mais est-ce que c'est vraiment une question finalement de direction de ressources humaines, de DRH, il faudrait demander aux services et aux managers d'être plus efficaces et plus efficients.
Non, je ne crois pas que ce soit la question des DRH, je pense que c'est la question du climat et de la psychologie générale. C'est vrai que quand on entre dans la fonction publique, on sait que dans les catégories supérieures de la fonction publique, on sera proportionnellement moins bien payé que dans le secteur privé. Je parle des catégories supérieures.
Ouais. Hein. Mais on aura l'emploi à vie.
On sera moins bien, mais voilà, on est garanti. On est garanti. Si on préfère la garantie au lucre, eh ben voilà, on est servi. Mais
est-ce qu'elle a un sens ? Est-ce que ça a un sens en 2024, cet emploi à vie ou pas ?
Oui, ça a un sens. Ça,
oui,
bien sûr que ça a un sens. Il y a des fonctions qui doivent être tenues de façon à ne pas être sous l'influence d'un pouvoir politique et d'agir en toute indépendance. Bien sûr que ça a un sens. Moi, d'abord, je suis toujours assez gêné par une sorte de stigmatisation des fonctionnaires. Moi, j'ai eu à gérer des grandes administrations. J'ai quand même rencontré des gens formidables là-dedans. C'est quand même l'extraordinaire majorité des gens. Des gens qui travaillent dans les policiers.
Non mais je suis sûr que dans ces administrations, vous avez aussi des gens qui sont enquistés, qui aimeraient avancer, qui sont bloqués par des statuts, qui sont bloqués par des échelons et qui aimeraient peut-être bien qu'on dépoussière tout ça aussi.
Alors je ne crois pas qu'il y ait énormément de gens qui soient demandeurs. En revanche, que ce soit souhaitable et que ce soit pour le coup au pouvoir politique d'en prendre le risque, oui. Mais si on prend l'éducation nationale, les enseignants sont notés. Bon, mais ils sont notés de façon, pour l'essentiel, vraiment formelle. Il faut qu'il y ait un dérèglement extravagant pour qu'il y ait vraiment à un moment une sanction, alors qu'il y en a qui s'imposent, et qu'au contraire, il y a des gens qui ont des mérites particuliers, parce qu'il y a des professeurs qui sont bien meilleurs que d'autres professeurs, et qui ne voient pas leurs mérites assez reconnus. Et je trouve que ça, c'est un gros problème. Mais il y a aussi l'utilisation des effectifs. Roselyne Bachelot connaît mieux le fonctionnement des hôpitaux que moi, mais je le connais quand même un peu parce que la moitié de ma famille y a travaillé. Quand je dis la moitié, les deux tiers. On sait très bien qu'on manque de soignants, mais qu'on a du personnel administratif qui pourrait être peut-être moins nombreux.
Oh, mais qui l'embauche?
Et qui a un pouvoir médical qui souvent est plus efficace qu'un pouvoir
administratif. Pire, Alain, il y a des vacataires qui sont mieux payés que les fonctionnaires.
Évidemment,
plus choquant.
Oui, c'est encore plus choquant. Là, il y a une mesure qui a été prise récemment, mais... c'était quand même des vacataires qui étaient jusqu'à payer 4 ou 5 fois plus que les titulaires pour le même travail.
On est d'accord. Là,
on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord.
Non, mais ce qui est dommage, c'est que finalement, cette affaire,
Monsieur Guérini, il était à la transformation.
Tout le monde joue dans un espèce de rôle. Le ministre, et je suis assez d'accord avec Alain quand il dit tout ça a été présenté de façon maladroite parce que il y a un paquet de réflexions. Et évidemment, tout de suite, on s'est focalisé là-dessus, alors qu'il y a toutes sortes d'autres mesures.
Et on a bloqué les syndicats.
Qui sont sur la table. Et d'un autre côté, blocage syndical qui dit, nous, ce qu'on veut, c'est des budgets. C'est-à-dire, une fois de plus,
c'est tout résoudre par
des augmentations.
2017.
Oui.
Monsieur Stanislas Guérini était à la transformation de la fonction publique en 2022. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince? Parce que là, Monsieur Guérini, allez-y.
Ce qui coince.
Appelez vos directions d'administration, faites le job, dites on ouvre un guichet.
Ce qui coince, c'est la différence entre négociation et concertation.
Oui. Et là, c'est concertation et pas négociation.
Voilà, c'est ça. Et je crois que là, vraiment, sur un sujet aussi délicat fondamental, c'est vraiment la voie de la négociation. C'est-à-dire de dire, bon, il y a des choses qui doivent évoluer, essayons de réfléchir ensemble à ce qui doit changer et non pas n'amenons pas des solutions toutes faites parce que là, on a l'impression qu'on informe des choses à venir et ça,
Je vous pose une question très simple, en conclusion provisoire.
Je me méfie des questions très simples.
Mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver à mettre fin à l'emploi à vie pour avoir une meilleure rémunération de ses agents à ce moment-là?
Moi, je pense que ça va échouer, ça.
Ça va échouer.
Oui, moi, je suis à peu près sûr. Je vois ça arriver.
Vous voyez arriver gros comme une maison. Vous pouvez me le signer maintenant. D'accord.
Moi, je pense que poser la question du licenciement comme première mesure flamboyante pour une réforme, c'est l'enterrer.
Et ben voilà, c'est clair. Merci, Roselyne Bachelot. Merci, Alain Duhamel.